Vous écoutez
RMC.
3-4.
RMC. 9h midi.
Pardon, me touchez pas.
Tel que c'est parti, tiendront les délais.
Les grandes gueules du sport.
Et le match commence.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre émission incontournable, vous le savez, le week-end on ne s'arrête jamais, même pendant l'été. Bon courage d'ailleurs si vous êtes sur la route des vacances, bon courage aussi si vous travaillez ce matin, on vous retrouve sur la plage, sur la route, enfin n'importe où, voilà, on est là, les grandes gueules du sport, on ne s'arrête jamais, vous le savez. Émission exceptionnelle en plus ce matin, puisque ça y est, c'est reparti pour la saison 2025-2026 en Ligue 1, depuis hier soir et la victoire de Rennes, 1-0 face à Marseille, pourtant à 11 contre 10. Est-ce que cette défaite de l'OM est inacceptable? 32-16 pour rejoindre le standard des GG. Dès maintenant, on parlera aussi du nouveau record d'Armand Duplantis, la star de la perche, qui a passé cette semaine 6m29. Est-ce qu'il banalise l'événement? On en débat à 10h avec nos GG. Et puis à 11h, retour sur les performances incroyables du français Terence Atman au Masters Mill de Cincinnati. Il fait face à Yannick Sinner en demi-finale aujourd'hui. Alors faut-il arrêter de dénigrer le tennis français? D'ailleurs, dans le zapping des GG, on parlera tennis avec la défaite de Gracheva hier soir. La punchline signée du joueur de Lens Adrien Thomasson cette saison, qui estime qu'il faut ouvrir les vestiaires aux caméras. Le foot français a-t-il intérêt à tout dévoiler? Ce sera à 10h30. N'hésitez pas à participer au débat avec nos GG 32-16, le hashtag RMC Live sur X et l'appli RMC Direct Studio. Et dans les grandes gueules du sport ce matin, une GG qui, comme Ligue 1 Plus, lui au moins, il ne nous avait jamais promis de spectacle. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut François, salut à tous.
Comment tu vas?
Il y a eu du spectacle, il y a eu du spectacle avec moi, avec mes équipes. T'es dur avec
mais
moi.
Mais ouais, je vraiment, sais, mais c'est comme toujours. Embêter. Mais non, mais c'est parce qu'on t'adore, tu le sais bien Pascal.
Tu sais quoi français? Oui. François, je me languis de voir ton équipe Metz cet après-midi contre Strasbourg. Tu vois, je vais voir ce que ça donne.
Ah oui, là tu vas te moquer.
T'es supporter messin?
Oui,
non, peut-être
ça,
pas. Mais... bon, je veux voir ça.
Oui, oui, oui. Bah, moi aussi, je veux voir, mais j'ai peur du résultat, je te le cache pas. Une grande gueule qui, comme Ligue 1 Plus, on aimerait bien qu'il nous ouvre ses portes un jour. Olivier Giraud est avec nous. Salut, Olivier.
Salut à tous.
Je ne sais pas ce qu'on y trouverait.
Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus.
On toujours que tu nous invites, hein, Olivier. Pourquoi tu ne nous invites pas? Toi, Pascal, il nous a invités à déjeuner, non? Tu nous inviteras un jour?
En fait, tu charges des repas gratuits. T'inquiète, je t'invite juste après, si tu veux.
Ah! Attention, hein!
Vas-y, vas-y.
Pas
viens,
de promesse,
viens,
hein.
Vas-y, viens, on va
parce
manger.
Que nous, on débarque, hein.
Vas-y, viens, on va manger.
Ok, très bien, avec plaisir. Une grande gueule qui, contrairement à Ligue 1 Plus, on préfère éviter qu'il nous ouvre toutes ses portes. Fred Weiss est avec nous.
Alors que pourtant, porte ouverte.
On veut pas, ça nous intéresse pas. On a peur de ce qu'on va trouver.
Mais je comprends. Mais je viens de comprendre et ton surnom t'ira très bien. François le Français.
François le Français, ça n'a jamais été fait en plus.
Non, jamais, c'est tout nouveau.
Grâce à Pascal. Bon, en tout cas, ravi d'être avec vous ce matin et j'espère que les auditeurs aussi sont ravis de vous retrouver pour une émission exceptionnelle puisque forcément, la Ligue 1 s'est repartie pour notre plus grand plaisir. Et on va revenir d'ailleurs tout de suite sur une défaite qui fait déjà tâche.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
C'est parti! Amine Gouiri au coup d'envoi, Léo Balerdi pour un premier ballon. Le premier enjeu avant de penser à marquer, c'est de poser le jeu et d'enchaîner les passes. Murillo est resté au sol.
Ah, il a pris une semaine a priori sur le 1-2. Sur le côté, ouais.
Avec Roux. Ah, VAR. Voilà. Là, monsieur Pignard est de retour sur la pelouse. Il va prendre sa décision. Pas de jaune à Frankowski. Et en revanche, pour Aïd Boudlal, il est en train de lui expliquer.
Ah,
et ça va être le rouge.
Le rouge
pour le jeune Abdelhamid Aïd Boudlal, 21 ans. Et les Rennais vont devoir finir cette rencontre à 10. C'est reparti. La deuxième période de Rennes-Marseille 0-0.
Allez, va cette passe. Il peut aller vite, Ibrahim Salah. Il peut aller vite, la frappe de Salah. Une fois, deux fois, c'est contré par le retour de la défense marseillaise. Il n'y aura rien. Il y a peut-être un contre à jouer pour les Rennais. Avec Ludovic Blas, à 3 contre 2 à jouer.
Blas qui met ballon, deuxième poteau vers Najida. Najida, la frappe. Najida à côté. À côté, le petit ballon de Najida.
6 minutes de temps additionnel. Encore, on va y entrer dans 10 secondes. Et toujours 0-0.
Et ils n'ont pas abandonné les Rennais. L'idée d'aller gagner. Elle est bonne, cette passe de Quentin Merlin pour Ludovic Blas en face à face. Blas face à Rouli, Ludovic Blas la frappe, elle est but rennais, le Ludovic Blas, le premier but de la saison, et pour Rennes, à 10 contre 11,
fini. Le ballon.
C'est fini la victoire du Stade Rennais, 1-0, cette victoire face à l'Olympique de Marseille pour la première journée de Ligue 1, la célébration d'Abibay et du staff technique Rennais.
Oh,
Et voilà, avec les commentaires, vous les avez reconnus, de Jean-Louis Tour et de Xavier Grimaud hier soir, et cette musique de l'été. On remercie Alban parce que on adore cette musique. Hein.
Non.
D'accord, très bien, merci. Moi j'adore, voilà, je le dis. Voilà. Moi j'aime bien. T'aimes pas Olivier ? Non, c'est l'été quoi, ça sent l'été, ça sent les vacances.
Le ouais, soleil, ça sent la fin de l'été, ouais. Non,
ça sent la sieste.
On peut tourner à
c'est des rabat-joie ce matin, c'est incroyable. Bon, moi j'adore. Rennes-Marseille, donc lancement de la saison, on l'a vu avec un nouveau diffuseur Ligue 1 Plus. Une première rencontre riche en rebondissements, puisqu'à 10 contre 11, vous l'avez entendu, pendant plus d'une mi-temps, les Rennais ont réussi à battre Marseille 1-0. Des Marseillais qui semblaient bien impuissants devant le but. Et hier soir, certains acteurs comme Wea, par exemple, au micro du diffuseur, ont parlé de défaite inacceptable. D'où ma question, les GG, ce matin. La défaite de l'OM hier est-elle inacceptable ? Oui ou non, Olivier Giroud ?
Non.
Fred Weiss ?
Oui.
Pascal Duprat ?
Non.
Bah tiens, voilà, tu vas être tout seul, Fred.
Ça change.
Juste avant, ce que j'aimerais vous faire écouter, c'est la réaction de Roberto De Zerbi, qui était en conférence de presse hier après la rencontre et qui forcément était déçu après une bonne préparation marseillaise de voir son équipe ne pas tout donner pour s'imposer.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas réussi à marquer. On a encaissé ce but bête. Après, hier, je vous l'avais dit en conférence, les matchs d'avant ne comptent pas. C'est une défaite qui doit nous servir, parce que si on pense qu'on est plus fort que ce qu'on est et que les buts tombent du ciel, alors on n'a rien compris.
La défaite de l'OM est-elle inacceptable? 32-16 pour nous rejoindre ce matin dans les grandes gueules du sport. Et toi, pour toi, Pascal, c'est non?
Non.
Pourquoi?
Non, c'est non tout simplement parce que d'une part c'est la première journée du championnat de France de Ligue 1, parce que l'OM a joué à l'extérieur à Rennes, qui est pas une équipe aussi facile que ça à manœuvrer, qui a le sixième budget de Ligue 1 et qui a des ambitions. Et puis j'ai l'impression que en fait le scénario du match a desservi les Marseillais plus que les Rennais. Alors je voudrais, quand je commente le couac marseillais, il faut aussi dire et reconnaître la victoire des Rennais, et surtout leur plan de jeu simpliste dès le départ à 11 contre 11, la volonté d'abandonner le ballon et la construction du jeu à l'OM, et puis de faire mal en contre. Alors donc ils l'ont fait à 11 contre 11, et puis ils l'ont encore fait à 10 contre 11. Non, moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est simplement alarmant, parce que De Zerbi nous a promis son jeu qui allait se mettre en place et qui allait mettre du temps. C'est ce qu'il nous disait l'année dernière. Ça a eu du mal à se mettre en place, mais ça s'est mis en place. On doit reconnaître que l'OM a une faculté à gagner ses matchs à l'extérieur. La saison dernière, ils l'ont fait beaucoup de fois. Ils sont allés, comme d'habitude hier, chercher très haut. Mais moi, ce qui me gêne, c'est la propension à prendre des buts incroyables. De Zerbi, en conférence de presse, il est écœuré d'avoir pris un but pareil à la fin du match, alors qu'il suffisait, quand vous avez Merlin, son ancien joueur, sur le côté gauche de la défense rennaise, qui est seul, ben normalement c'est un cas d'école. Tu suis tes attaquants, tu joues pas le hors-jeu à 50 mètres de ton but. En fait, les défenseurs marseillais ont offert le but aux Rennais, et ça a été trop souvent le cas la saison dernière. On a parlé des déficiences derrière des Marseillais, on en parlera encore. Alors il y a à édulcorer, parce que Medina n'était pas là. Donc quand ils ont pris Facundo Medina, c'est aussi pour régler les problèmes défensifs, parce que c'est un vrai défenseur et un vrai leader. Donc on va attendre aussi le fait que Medina soit de retour. C'est inacceptable, mais en fait...
Le comportement des défenseurs.
C'est inacceptable. C'est le football, malgré tout. Et c'est le fait d'une équipe qui est frustrée de pas gagner et qu'on oublie les fondamentaux défensifs. C'est ça qui est inacceptable. Parce que 0-0 hier, alors c'est facile à dire maintenant, mais Marseille aurait été tout autant frustré, mais aurait fait match nul à l'extérieur. Ouais. Ça aurait pas été un si mauvais résultat que ça.
Moi j'aime beaucoup ce que dit Pascal, hein, comme d'habitude, c'est toujours très intéressant, et on est d'accord, effectivement, c'est une honte, c'est un scandale ce but encaissé à ce moment-là, donc comme quoi on se rejoint quand même assez souvent, mais moi ce qui me choque, c'est que Pascal est en train de nous raconter un match qui n'a pas eu lieu en fait, c'est pas ce match-là qu'on a vu, le match qu'on a vu c'est un 10 contre 11 pendant une heure, à 11 contre 11, tu fais match nul ou tu perds à Rennes, à la limite tu peux l'entendre, même si pour Marseille qui a des ambitions ça paraît surprenant, mais admettons, ça peut s'entendre, évidemment Rennes joue bien, il l'a expliqué, c'est un budget très important de la Ligue 1, donc quel serait le problème réel de au moins faire match nul contre Rennes, mais là c'est pas ce match-là qu'on a vu, on a vu un match où pendant une heure on est en supériorité du numérique du côté de Marseille. Vous avez cette équipe qui doit concurrencer le PSG, qui doit super bien commencer la Ligue pour mettre la pression sur le PSG. Vous savez quoi? Il paraît que le PSG va annoncer bientôt que comme ils ont perdu à 10 contre 11 contre Rennes, ils vont se pointer à 7 pour jouer, pour équilibrer un petit peu le match.
T'exagères.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on peut pas avoir les ambitions, afficher les ambitions qu'on a dit et ne pas être capable au moins, de conserver un match nul contre Rennes alors qu'ils sont à 10 joueurs pendant une heure. Moi, je trouve ça incroyable. Et je trouve que, du côté de Pascal, on est très généreux de pas mettre
non,
ça en
pas cause. Généreux. Je connais ce sport qui te surprend tout le temps et qui a surpris les Marseillais. Je suis certain que si le match se déroule 11 contre 11, si le match reste 11 contre 11, Marseille gagne. Ça te paraît con ce que je te dis, mais je le pense très sincèrement. La supériorité numérique des Rennais a servi leur dessein. Parce que c'était clair, ils ont abandonné.
Tu sais que le prochain match, ils le jouent à 10 aussi, parce qu'apparemment ils sont meilleurs.
Mais simplement te dire que Marseille est contraint de gagner dès lors qu'il est en supériorité numérique. Donc à partir de là, ils en oublient les sécurités. Ça voudrait dire aussi
ils sont contraints de gagner des départs. Vu les ambitions affichées, ils sont contraints de gagner des départs.
Encore plus quand tu es en supériorité numérique et que tu t'appelles l'OM. Et dernière chose que je voudrais dire, le sport, tu le connais quand même. Ils ont frappé deux fois les poteaux. C'est aussi une question de chance, d'opportunité. Et avant cela, ils ont frappé 11 fois au but, 11 fois sans cadrer. Donc aujourd'hui, on parle des errements défensifs pour masquer peut-être les déficiences offensives du moment de Marseille sur ce match-là. Mais encore une fois, ce qui m'ennuie, c'est la récurrence des problèmes défensifs de l'OM. Ça m'ennuie beaucoup. Mais c'est dû au style de jeu du coach. Hein. Il abandonne 50 mètres dans le dos chaque fois. Ils vont chercher. C'est leur style.
Ils ont eu des occasions, les Marseillais, des poteaux.
Il y a eu deux poteaux.
Je
suis d'accord.
C'est
la vie du football aussi, ça.
Ils ont concédé aussi beaucoup d'occasions. Et c'est ce que disait Pascal.
En contre.
Il y a eu beaucoup d'occasions en contre. Le plan de jeu rennais était.
Alors que moi, Pascal, dis-moi si j'ai tort, on m'avait dit que du côté de Rennes, au niveau des attaquants, c'était pas fou quand même. Surtout sur ce match-là où il manquait des joueurs.
Là, encore une fois, contre Marseille, il suffit de. Ils ont très bien fait les choses. Attention, Bale, c'est pas un enfant. Mais bon, ce qu'il nous a montré, c'est ce que font beaucoup d'entraîneurs quand ils jouent contre des équipes qui ont la possession. Mmh. Il a abandonné du terrain. Il a travaillé sur la largeur. Il a mis de la densité au milieu du jeu. Et puis, il a contrarié les Marseillais qui ne font qu'avancer et qui jouent la ligne à la dernière minute sur un joueur qui n'est pas cadré. Le porteur de balle n'est pas cadré. C'est un enfantillage, ça. C'est pour ça qu'il a les boules de Zerbi.
Alors, 32-16 pour rejoindre les grandes gueules du sport ce matin et notamment pour participer à ce débat sur l'OM. Olivier, toi, tu refuses de dire que c'est une défaite inacceptable ?
Bah non, on ne dit pas une défaite inacceptable. Le premier match,
on le sait tous.
Ça a été dit en plus par Timothée Weah, qui est un des derniers arrivés, joueur qui n'a pas de rythme, qui n'est pas encore vraiment intégré dans le dispositif. Il faut mettre du temps. Ce qui est gênant, c'est d'annoncer des ambitions et que finalement, les mêmes causes apportent les mêmes effets. Marseille ne change pas beaucoup. C'est une équipe qui a besoin de rythme. On sait que dans la saison, ils seront bons automatiquement dans la saison. Ils seront bons. À des moments, ils sont capables d'enchaîner des séries de matchs. Mais ce premier match, il ne fallait pas le rater. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que finalement, on a l'impression qu'on est revenu aux errements de l'année dernière. Dès le premier match de Zerbi, nous avait annoncé de grands changements. Marseille a toujours autant de mal avec des équipes en bloc bas. Et en fait, les problèmes défensifs.
Ils vont rencontrer quasiment que ça en Ligue 1.
Mais c'est ça le signal. Le signal, c'est que les équipes qui vont jouer Marseille tout de suite après, parce qu'il faudra avoir du rythme dans le championnat, vont utiliser ce qu'a fait Rennes aujourd'hui. Ce qu'imaginer aussi, c'est que n'est pas Dembélé qui veut. C'est-à-dire que De Zerbi a essayé de faire des changements avec Rabiot en 10 et on voit que ça marche pas du tout, que ça ne fonctionne pas du tout. J'ai pas trop aimé ce positionnement. C'est vrai que Rabiot a peut-être des velléités internationales, a peut-être à jouer en 10, mais je trouve que ça déséquilibre énormément cette équipe.
L'an dernier, hein.
Ouais, mais j'aurais plutôt voulu voir Guéry avec Aubameyang. On parlera aussi des nouveaux arrivants parce que ce championnat, pour moi, il est attractif parce que, évidemment, on en parlera tout à l'heure, c'est la route inverse de ce qui se passe en Arabie Saoudite. On a plutôt des joueurs vieillissants qui arrivent.
Et eux
récupèrent les jeunes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais par contre, avec des signatures de joueurs qui, tu, tu as envie de voir jouer. Et que
bah, laisser pour le temps ça... au temps pour Aubameyang, il vient d'arriver, il pouvait pas le faire jouer d'entrée.
Ouais, c'est aussi ça le problème. Il pouvait pas le faire jouer d'entrée, mais
on n'est pas à sa place. Il a un effectif à gérer. On est en début de saison. Tout ceci, il faut le prendre en considération.
Mais ça, je te l'accorde. Ça, on est en début de saison. Mais rater d'entrée un match comme celui-là, on sait la pression qu'il y a à jouer à domicile à l'OM. Et c'est vrai que bien commencer le championnat, c'est plutôt quelque chose qui aurait été de bon ton pour Marseille.
Surtout que les cinq dernières saisons. Ils ont gagné leur premier match, hein,
exactement.
Marseille.
Et là, le premier match à domicile, il va être déjà sous tension.
Alors, justement, 36-16, hein, pour nous rejoindre, ça sera Marseille PFC la semaine prochaine, effectivement, à suivre sur RMC, bien sûr. On va prendre Hicham, qui est avec nous, qui a fait le 32-16 ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonjour Hicham.
Bonjour, salut Hicham. L'équipe. Salut. Bonjour les Hicham. Du sport.
Supporter comment marseillais. Ça va bien et toi?
Non,
ouais, ça va, Dieu merci. Hein.
Il est supporter marseillais. Non, il va bien, lui, physiquement, mais mentalement, voilà, c'est moyen.
Il va bien, parce qu'il va peut-être pas s'alarmer au bout d'une journée de championnat. C'est ça, Hicham?
Franchement, les gars, il faut prendre une petite tisane. On est samedi matin, il faut aller au marché, il faut prendre ses petits melons.
Mais on peut pas,
tomates.
On est ici, on peut pas tout faire, Hicham. On est ici, on peut pas aller au marché, là.
Non, en fait, ce qui est un peu gênant hier soir, j'ai regardé le match. C'est plus ce côté où quand l'équipe adverse laisse le ballon à l'OM, désolé du terme, mais on se fait tout de suite chier, ça ronronne, il n'y a pas de verticalité, c'est la passe à 10. Et j'ai l'impression que maintenant les équipes adverses, Habib Bey, quand tu l'écoutes parler après le match de la tactique qu'il a mis en place pour, pas piéger, mais pour contrecarrer les plans de l'OM, t'as l'impression que ça y est, en fait, on la connaît, la recette de Deserbi. C'est plus ça, moi, qui me dérange. Parce qu'hier, en vrai, à 11 contre 10, à 11 contre 11, tu manques de réussite, tu tapes deux fois les montants. Enfin, les joueurs de l'OM, ils ont mis les ingrédients hier. On peut pas leur reprocher de pas avoir mis les ingrédients. De Zerbi, pareil, il fait des changements à la 70e, il fait rentrer Aubameyang.
Un peu de nonchalance, quand même. Moi je trouve réellement un peu de nonchalance, quand même.
Je dirais pas de la nonchalance, je dirais de... Il y a une différence sémantique entre nonchalance et suffisance, dans le sens où on est à 11 contre 10, les gars, il peut rien nous arriver, on va marquer. C'est plus ça, en fait, qui est dérangeant. Au-delà de tout cet aspect qui est plus psychologique à se dire on est à 11 contre 10, on va y arriver, c'est plus quand t'es à 11 contre 11, moi, c'est ce qui me pose problème. Les 20 premières minutes où Rennes laisse le ballon à l'OM, où il y a 2-3 pics où ils vont presser justement dans l'axe de Hautberg, Balerdi sur quelques relances, Rongier en récupère une ou deux et ça peut faire des contres. Mais c'est ce truc où ils se disent ils jouent à la baballe, on fixe, on décale, mais t'as l'impression que Rennes avait déjà tout lu, en fait. Et donc c'est cette inefficacité offensive au final, parce que le ballon tu l'emmènes pas jusque devant. Donc Gouiri, il a erré pendant 60 minutes, je lui en veux même pas. Jonathan Rowe, je l'aime bien, mais c'est gris-gris où il efface un joueur et après il fait du brouillon, il fait du boulga, il se fait reprendre par la deuxième lame. C'est inefficace. Greenwood, pareil. Sa tente, c'est... Après, encore une fois, on est le 15, on est le 16 août. On est le 16 août, première journée de championnat. On va redescendre à la pression. Moi, ce que je veux pas, c'est que justement... Mais c'est inévitable et inéluctable avec l'OM, c'est que cette pression, elle va monter face au Paris FC. Premier match du championnat au Vélodrome. Tu gagnes pas face au Paris FC, tu fais un nul ou une défaite. C'est une autre sauce, hein, les gars.
Hicham, rappelle-toi quand même ce qui avait été annoncé au départ. Au départ, c'est on commence très très fort justement pour mettre la pression sur le PSG. Je suis pas sûr, ça commence très très bien. Alors, je viens avoir pris ma tisane, mais j'ai l'impression.
C'est Fred
Weiss. J'ai pas l'impression.
Moi, il faut arrêter avec ça.
C'est pas moi qui l'ai annoncé.
Moi, je vous le dis, que ce soit les supporters, que ce soit l'équipe dirigeante, que ce soit les médias, arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. Oh, le mercato XXL de l'OM. Et rien de mercato d'XXL. Si la mayonnaise, elle prend pas sur le terrain, le mercato, il veut rien dire. Et arrêtez de parler du PSG. Ils sont dans une autre
sphère. C'est pas nous qui en parlons, en fait.
Oui, mais que ce soit vous, nous, les supporters, ou comment s'appelle, les dirigeants.
C'est Rabiot qui l'a dit la semaine dernière, par exemple.
Mais il faut qu'il arrête, Rabiot. Il y a un monde d'écart entre le PSG et le reste du championnat.
Oui.
Faut
être mais il ne peut pas clairement l'avouer. C'est normal qu'ils sont compétiteurs. Ils ont envie de concurrencer l'OM. C'est normal.
Ils ne disent pas qu'ils vont gagner le titre. Ils veulent se rapprocher du PSG. Voilà le mot exact d'Adrien Rabiot.
Ouais, mais en tant que compétiteur, tu dois avoir justement une analyse fine en te disant « Bon, les gars, c'est comme si c'était Tyson face au 18e de d'Aubervilliers qui fait des matchs, des sparring partners. Tu sais très bien qu'il y a... Enfin, je veux dire, le PSG a 10 ans d'avance, que ça soit financièrement, dans la structure du camp d'entraînement, Luis Enrique, ses coachings, ses joueurs. Enfin bref, arrêtons de vouloir. Pareil, là, j'ai vu que le 21 septembre, il y a un Marseille-PSG. Mon Dieu, s'il vous plaît,
cinquième
RMC, n'en faites pas des caisses. Hein. Ils vont venir.
Ça va être la police.
Non mais les mecs, je veux pas qu'on commence. Oui, l'OM a-t-il ses chances cette année?
On verra. Hicham, écoute, ce que je te propose, c'est de venir en conférence de rédaction RMC comme ça.
Tu connais pas les journalistes RMC, toi?
Si, ils connaissent par cœur à la maison, j'ai l'impression.
Faut pas en faire des caisses. Dans les deux sens, faut pas en faire des caisses.
T'inquiète.
Aujourd'hui,
t'inquiète pas pour ça.
On est connu pour d'autres mesures, Hicham.
Ah bah mais c'est justement c'est ça en fait qui nuit à l'OM.
Mais non, il y a pas que ça. Bon, mais tu as raison sur un fait, c'est que il faudra attendre pour évidemment juger cette OM là, il y a quand même des petites choses à régler et ça Roberto De Zerbi l'a dit hier. Merci en tout cas, merci mille fois Hicham d'être passé sur RMC ce matin dans les grandes gueules du sport et merci pour la tisane, hein, on en avait besoin.
Ouais, j'en avais besoin, mais ça m'a calmé.
Parfait. On continue le débat évidemment dans un instant dans les grandes gueules du sport avec vous au 32-16. N'hésitez pas comme Hicham, vous nous rejoignez, vous le savez, 32-16. Et puis l'appli RMC, onglet Direct Studio. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à nous écrire ce matin. On revient tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport. Fred Weiss, Olivier Giraud, Pascal Duprat ce matin. Dans un instant, vous le savez, il y aura le zapping avec, tiens, ça c'est pour faire plaisir à Fred, du basket au programme.
Il fera
pas de hand.
Bon, on a attendu du basket tout l'été. Tu t'es régalé. T'étais là tous les jours. T'en as placé à toutes les sauces.
J'ai essayé d'en mettre à toutes les sauces. T'as vu quoi? C'était radio basket.
Ah, je te jure.
Bon, on va continuer d'en parler parce qu'il y a quand même de l'actualité, forcément, pour notre équipe de France. Mais d'abord, la suite de notre débat autour de la défaite de l'Olympique de Marseille hier, 1-0, donc battu par Rennes alors qu'ils étaient en supériorité numérique quasiment plus d'une mi-temps. Est-ce que c'est inacceptable, 32-16, pour nous rejoindre? Je cite quelques auditeurs qui nous écrivent sur l'appli RMC.
S'ils nous insultent, tu ne les cites pas. Hein.
Bah, si, je cite. je cite deux personnes. Il y a par exemple Antoine qui nous dit « Je ne sais pas comment vous pouvez parler d'une équipe qui se retrouve en supériorité pendant une heure. Ce qui est travaillé ne peut pas être mis en place. En face, vous avez un bus qui attend. » C'est ce que disait un peu Pascal. « C'est insupportable à jouer et à regarder. » Et c'est un peu ce que tu disais, Pascal, et ça, c'est intéressant, je trouve. Le côté... Toi, tu es persuadé qu'à 11 contre 11, ils auraient gagné parce que le fait d'être en supériorité numérique très tôt dans la partie, bah, ça les oblige à aller chercher la victoire, à être victorieux à l'issue de cette rencontre. Bah, c'est ça, donc ça change la façon de voir cette rencontre.
Bah, en fait, tu manques de clairvoyance, quelquefois tu te précipites. Et puis aussi pour les Rennais qui avaient déjà dans l'idée d'abandonner du terrain et de laisser la balle à Marseille, le fait d'être un de moins, bah, fatalement, tu défends davantage. Et ça, on peut pas en vouloir à Bayne et à ses joueurs. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire dans ce cas de figure-là. Et puis, donc, Marseille, moi, ce qui m'inquiète, mais c'est pas nouveau, c'est récurrent, je le répète, du côté de l'OM, c'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que dès lors que le Marseille va presser, le porteur du balle de balle rennais est pas suffisamment cadré, c'est le cas d'école sur le but, et puis bah, comme tout le monde avance à Marseille, tout le monde avance et tout le monde joue la ligne, il y avait qu'un joueur à contrôler hier sur le but de Rennes, c'est Bla, et le seul qui était en pointe, le seul.
En plus.
Ah oui, c'était le seul à contrôler. Il fallait le suivre tout simplement et ne pas jouer leur jeu. Et là, sur ce coup-là, franchement,
c'est qui? C'est Balerdi alors qui le suit pas?
Balerdi est la défense, mais aussi c'est ce que veut le coach certainement. Mais ce que veut le coach, mais qui a pas été appliqué, parce que c'est un cas d'école. Quand le joueur qui fait la passe n'est pas contrarié, bah au contraire, tu dois reculer défensivement tout simplement. Voilà. Et ça, c'est énervant. Ouais. C'est énervant parce qu'on le voit trop souvent à l'OM. C'est pour cette raison que j'ai souligné que Medina n'était pas là. Attention, le recrutement de l'OM est bon. Ok, sa campagne de matchs amicaux a été bonne, sa préparation bonne. Enfin, l'OM trouve de la stabilité, un entraîneur qui reste plus d'un an, des joueurs qu'on pensait qu'ils allaient partir. Comment ?
C'est très stable. On l'a vu sur cette.
Bah oui, cette sta- Mais non, mais cette stabilité, ils vont. Mais tu sais, franchement, Fred, le même type de match, il le joue 10 fois, il le gagne.
Mais
non,
mais l'ont perdu. Mais moi, j'ai une question, Pascal, pour toi. Est-ce qu'on ne prépare pas, parce que l'auditeur est en train de dire, oui, on est surpris de se retrouver à 11-10. Mais nous, en basket, quand on a des situations, c'est-à-dire que quand il reste une seconde, quand il reste 5 secondes,
non,
quand il reste
20 secondes. Tu nous prends pour des cons, toi, les footballeurs. Tu penses qu'on prépare pas.
Non, c'est pas moi. C'est l'auditeur qui est en train de dire.
Je sais pas qui est, c'est toi qui me parles.
Mais ma question vient de la question de l'auditeur, qui lui dit, quand on est à 11-10, on est un peu surpris d'un seul coup et on sait pas quoi faire. Bah non. Tu l'as préparé à l'entraînement. C'est des choses qui sont préparées aussi.
Bien sûr que c'est préparé à l'entraînement.
Ça peut arriver. Parce qu'au foot, ça peut arriver d'avoir un carton rouge. Ça peut arriver d'avoir une expulsion. De jouer à 11-10, c'est pas quelque chose d'utopique. C'est quelque chose qui arrive.
L'auditeur comme toi, l'auditeur qui n'est peut-être pas un ancien joueur professionnel d'un sport collectif. Toi, tu l'es. Quand Rabiot, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, frappe le poteau, s'il marque, mais Marseille gagne 4-0. Oui, voilà, c'est tout. Il y a l'incertitude du sport, il y a les aléas.
L'incertitude du sport, il y a 11-3, il gagnerait quand même ou non ?
Attendez, Olivier.
Il y a les aléas du sport, mais c'est une erreur défensive manifeste. Ça veut dire qu'à un moment, on sait que Balerdi, c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Comment tu peux te retrouver à 4 alignés ? On peut tout mettre sur le coach.
Tu dois contrôler ton joueur.
Il doit y avoir certains automatismes. Tu dois avoir certains patrons, des patrons offensifs, mais on a décidé et Balerdi fait des parties des cadres de De Zerbi et ça ne marche toujours pas.
Olivier, je vais être plus clair avec toi, c'est une question de qualité intrinsèque des joueurs. Tout simplement, parce que le coach ne peut pas tout régler. Dans cette situation-là, il y a la pertinence tactique du joueur. Là, il doit couper la course de Blas. Il doit faire en sorte que Blas ne puisse pas prendre la profondeur.
Mais il en fait son capitaine. Il en fait son patron.
Mais moi, j'en sais rien. Je te dis qu'il mentait. Il manquait hier un joueur.
Bon.
Donc, très important à l'OM. Medina, vous le verrez. Alors,
c'est juste pas inacceptable. C'est juste qu'ils sont nuls, quoi. Ce que nous explique Pascal. C'est ça? C'est bon pour être sûr.
Moi, j'ai OM. Qualité intrinsèque des joueurs qui composent cette défense centrale par rapport à la qualité du club. C'est ça mon interrogation, tout simplement. Alors, puisqu'il y a récurrence des erreurs par rapport à l'année dernière, c'est les mêmes.
C'est pas inacceptable, mais c'est alarmant. Il l'a dit, Pascal, quand même. Ça veut dire que alarmer sur certaines choses qui ne sont pas réglées encore cette
année. Ça doit rendre fou le coach de Zerbi.
On va peut-être en parler avec Walid de Roberto De Zerbi. Walid, supporter de l'OM, qui nous rejoint au 32-16 ce matin. Bonjour, Walid.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, Walid.
Ravi de t'accueillir, on t'écoute.
Je vous appelle parce que franchement, hier soir, à la 35e minute, j'étais avec des amis, on regarde. Moi, je leur ai dit, on va perdre. Je vous dis pourquoi.
Ah oui, quand il y a le carton rouge.
Zerbi, il est surcoté. Depuis l'année dernière, on a laissé une année pour s'adapter, ainsi de suite. Normalement, cette année, nous devrions annoncer la couleur, qu'on est prêt, qu'on a ce qu'il faut, mais c'est pas le cas. Alors, moi, ce que j'ai dit, vaut mieux un ici que trois ici. Monsieur Desarbi, je suis sincèrement désolé, il est passé pour l'OM, monsieur. Parce que quand on voit monsieur Desarbi jouer encore avec Condombia et Balardi, il est en train d'encore de chercher, on peut pas espérer grand-chose. Hein.
Alors,
je ne sais pas, alors la direction de l'OM, s'ils arrêtent de le prendre pour des deux, moi je suis un fou de l'OM, et franchement je suis malheureux comme tout, parce qu'on ne joue pas.
Alors, et tu voudrais quoi comme coach ?
Walid, j'en profite pour te dire, essaye d'enlever le haut-parleur parce que c'est peut-être pour ça qu'on t'entend pas très bien. On a compris quand même
le fond.
Le fond est de dire que Roberto De Zerbi n'est pas fait pour l'OM.
Et quel coach est fait pour l'OM ?
Oui, il est pas fait pour l'OM. Et vous allez voir, moi, j'avance la couleur parce que tout le monde analyse les matchs. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des analystes, ils analysent avant le match. Ils nous disent, bon, cette équipe, elle va gagner parce que ça, et l'autre, elle va perdre à cause de ça. Mais une fois que le match est fini, tout le monde devient analyste. Tout le monde comprend au foot, ainsi de suite. Moi, je l'annonce la couleur dès maintenant. Monsieur De Zerbi, il va pas durer 2-3 mois, et vous allez voir. J'espère qu'il vous rappelle, monsieur.
C'est déjà la crise.
Donc c'est inacceptable. Il boit du petit lait, Fred.
Alors moi, je suis très très bien là. Je me sens magnifique.
Mais non, mais alors merci, là, c'est un supporter de l'OM qui le dit sur Roberto De Zerbi. Il y a eu quand même beaucoup de qualités mises en avant de la part du coach marseillais, quand même, qui s'est adapté parfaitement à cet environnement, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et là, c'est sûr que c'est le premier match. C'est difficile de tirer des conclusions et de savoir s'il va rester. Mais forcément, on se souvient qu'après une défaite contre Auxerre, Roberto De Zerbi lui-même avait mis sa démission sur la table. Donc forcément, si le début de saison ne tourne pas rond, Ouais. Est-ce que Walid va avoir raison?
Non, mais moi, j'ai toujours été contre, tu sais, les trophées des coachs, parce que je pars du principe qu'ils font pas tous le même métier. C'est-à-dire qu'ils conduisent pas tous la même voiture. Et peut-être que De Zerbi, tu le mets dans une autre équipe où il a les moyens de faire l'équipe qu'il veut avec les joueurs qu'il veut.
Arrête, là, il a eu quand même les moyens.
Il a gardé ses cadres déjà, ce qui est quand même énorme. À notre époque, garder ses cadres, c'est quand même énorme.
Il a gardé ses cadres, mais ce n'est pas.
Il a eu des joueurs qu'il avait quand même choisis, enfin, d'après ce qu'il nous dit.
Mais tu choisis tes joueurs. Déjà, que tu puisses choisir tes joueurs.
Il n'a pas les mêmes moyens que le PSG.
Avec les moyens, tu organises par rapport à ce que tu veux faire, mais c'est pas seulement, c'est très compliqué pour un coach aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'es pas coach du PSG comme tu es coach de Marseille.
Bien sûr.
C'est-à-dire
si tu enlèves Paris, Olivier, enlève Paris Saint-Germain. Tu penses que De Zerbi est le coach n'est pas le coach le mieux loti de la Ligue 1 en termes de joueurs? Moi, je pense que c'est le mieux loti.
Je suis pas d'accord.
Après Paris Saint-Germain.
Je suis pas d'accord. Je pense que dans le football moderne,
il a le meilleur public, il a le meilleur club.
Oui, le meilleur public. Il joue pas le public.
Il te supporte,
je sais qu'il joue, il peut même jouer contre toi. Ça veut dire que si t'as pas l'équipe, d'avoir le meilleur public, tu vas voir la semaine prochaine quand ils vont jouer le PFC, ça peut se retourner contre toi. Aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, t'es obligé de faire des assemblages. Et les équipes qui font les meilleurs assemblages, c'est les équipes qui ont les meilleurs centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, les pépites, elles arrivent de plus en plus tôt. Et comment tu les gardes? Et qui te permet de pallier à ce fait de pas pouvoir composer l'équipe comme tu le veux, c'est d'avoir un centre de formation de qualité et d'avoir des jeunes de qualité aujourd'hui. Est-ce que l'OM aujourd'hui peut se payer les meilleurs jeunes?
L'exemple Rennais, qui est une formidable école de formation, ce qui n'empêche pas de vendre beaucoup de joueurs et aussi d'en acheter.
Et qui leur donne des moyens.
Ça leur donne des moyens, mais les moyens Rennais, alors sont peut-être supérieurs si Pinot le décidait, mais le modèle économique Rennais est pas celui de l'OM. L'OM, c'est trois fois le budget de Rennes, malgré tout. À ce titre, De Zerbi est l'entraîneur après Luis Enrique qui est le mieux loti. Il a la deuxième Rolls-Royce du foot français. Quel entraîneur n'aurait pas d'entraîner l'Olympique de Marseille avec les joueurs actuels? C'est faux.
Tu me donnes le prix, tu dis le budget, mais le budget, il doit être aussi aligné. Ça veut dire que quand tu vas à Rennes, le même joueur qui va à Rennes, le même joueur qui va à Marseille, ne coûte pas le même prix.
Ça, c'est la rançon de la gloire.
Puisque on parlait de Rennes-Marseille, il y avait deux anciens Marseillais dans l'équipe d'en face qui auraient fait peut-être du bien à Marseille. Je pense à Merlin et Rongier, évidemment.
Ouais, mais c'est toujours comme ça.
Quand
tu changes de club, évidemment, quand tu réaffrontes ton club, tu vas être performant. Voilà. C'est un peu, c'est récurrent, c'est un parti de niveau.
Il y a des choix qui seront quand même questionnés.
Ces choix à Marseille. Aujourd'hui, De Zerbi les conduit.
Ah bien sûr.
C'est lui qui a fait en sorte que
c'est tout à fait.
On est d'accord. Donc ça peut-être pas été toujours le cas à l'OM, mais en tout cas cette fois-ci, il a toute l'attitude.
En tout cas,
dans le deuxième meilleur club de France aujourd'hui, si on parle contemporain, aujourd'hui Marseille qui a fini deuxième la saison dernière est le deuxième meilleur club en France. Bon. Olivier, je suis désolé.
On va remercier Walid. Voilà, comme ça, point final. Hop, c'est Pascal Duprat qui siffle la fin du match. Merci Walid, en tout cas, d'être passé au 32-16. Vous faites comme Walid, vous nous rejoignez ce matin dans les grandes gueules du sport. Et puis pour suivre la saison de Ligue 1, vous le savez, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui, Lens, Lyon, 17h, Monaco, Le Havre, 19h, Nice, Toulouse, 21h05. Et on reparlera de Ligue 1 à 10h30 dans la punchline GG. Mais dans un instant, le zapping des GG. Et on va parler de basket, puisque l'Espagne va affronter la France à Bercy. Tiens, on va retrouver Bercy comme l'année dernière lors des Jeux Olympiques. On en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Les grandes gueules du sport ce matin, composé de Fred Weiss, Olivier Giraud, Pascal Duprat depuis 9h jusqu'à midi. À 10h, ne manquez pas le bras de fer des GG après le nouveau record du monde d'Armand Duplantis en saut à la perche. Il a passé 6m29 cette semaine, déjà le 13e record battu par le Suédois. Alors est-ce qu'il banalise l'événement 32-16 pour rejoindre le standard des GG dès maintenant? Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, c'est le zapping des GG.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Le principe, vous le connaissez, je vous donne des infos, vous me dites si ça vous intéresse ou non, si oui, vous parlez, sinon vous passez votre tour. On commence par Varvara Gracheva, battue en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati par Veronika Kudermotova, c'était hier soir. On s'en fout pas, Olivier Giraud.
Non, je m'en fous.
Fred Weiss.
Je m'en fous.
Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Merci, très bien. Bon, elle a juste perdu 6-1, 6-2. On y va sur l'équipe de France de basket qui retrouve Bercy un an après les Jeux pour un nouveau match de prépa face à l'Espagne. On s'en fout pas, je retente ma chance. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas, mais je sais qu'il y en a un qui va prendre la parole, donc je vais le laisser parler.
Olivier Giraud.
Je m'en fous pas.
Fred Weiss.
J'hésite. Je m'en fous pas.
Après leur victoire cette semaine en Espagne, c'est en France, donc à Bercy, que les Bleus continuent leur prépa ce soir 21h face aux mêmes Espagnols battus à Badalone il y a deux jours. La salle sera quasiment pleine ce soir, 14 000 spectateurs attendus. Et c'est un souvenir sympa, notamment pour Gershon Yabouzélé qui avait participé à ces Jeux Olympiques. Écoutez.
Un très bon feeling, il y a forcément un petit sourire en coin quand on est rentré dans la salle. Forcément le match de demain il va être aussi incroyable je pense avec le public. Match aussi contre l'Espagne, on sait qu'ils vont essayer de prendre la victoire, ça va être un match aussi intéressant, mais dans un point de vue général on est quand même très content de pouvoir remettre les pieds à Bercy. Mais c'est vrai que nous avec les JO ça a rendu encore un peu plus spécial, donc c'est vrai de revenir ici c'est vraiment sympa de pouvoir jouer devant la famille et tout le monde.
Voilà, sympa de jouer devant la famille comme le dit Yabouzélé. Tu t'en fous pas Olivier?
Non, je m'en fous pas parce que c'est important. On n'avait pas battu l'Espagne depuis
11 ans.
Quelques petites années et ça reste toujours intéressant, surtout dans le turnover de l'équipe de France. Obligatoire, je mettrai un petit bémol sur le fait que oui, ça rappelle des souvenirs des Jeux, mais c'est plus du tout la même équipe. Mais surtout, leur rappeler que ça ne reste qu'un match amical.
Un match de prépa et un match qui peut permettre aussi, Fred, de déterminer le groupe de 12 puisqu'il reste encore deux choix à faire pour Fred Fautou.
Oui, je crois que Fred Fautou a décidé d'attendre ce match justement pour décider, ce qui est assez compliqué. On sait que Vincent Poirier et Rizaché ne joueront pas ce match.
Ils sont ménagés
parce que Vincent Poirier, on l'a vu, souffre beaucoup du genou. Rizaché, je crois que c'est une contusion à la main ou je sais plus exactement, mais en tout cas rien de très grave. On attend ce match avec impatience parce que comme au rugby, c'est pas un match amical contre l'Espagne, c'est toujours un match test. Donc on aime bien les affronter, ces Espagnols, c'est nos rivaux principaux. On aime
même
bien,
s'ils ont baissé en qualité.
On aime bien se mesurer à eux, et c'est là où j'allais en venir. Effectivement, ils ont baissé en qualité, c'est plus exactement la grande Roja de l'époque. Mais on sait aussi que ça joue bien au basket, que ça va nous faire travailler offensivement, parce que Sergio Scariolo est un grand coach, et il va nous faire des propositions défensives assez intéressantes, forcément. Donc on va travailler, on va se montrer un petit peu, parce que c'est important de se montrer aussi. Et c'est notre avant-dernier match amical avant l'échéance de
la Grèce après.
Donc, match important, match intéressant, une équipe jeune mais hyper sympa à voir jouer. Donc, j'encourage tout le monde, ceux qui n'ont pas pris de place, s'il en reste, à y aller.
Ouais, il reste quelques places pour voir aussi les hommages rendus notamment à Nico Batum,
sur les billets,
à Nando de Colo ce soir.
Évidemment.
Ah, c'est peut-être pour ça. Et puis demain, un pas raté. Invité exceptionnel des grandes gueules du sport. Boris Diaw.
Qui pourrait nous apporter des réponses.
On connaît un peu Boris Diaw.
On se connaît un petit peu.
Les gens des Bleus, manager général de l'équipe de France.
Il pourrait nous apporter quelques réponses. Il pourrait nous apporter aussi son regard par rapport à ce nouveau groupe, ce nouveau coach aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, toujours intéressant d'avoir.
11h30 demain, Boris Diaw dans les grandes gueules du sport. Allez, autre actu. Franck Haise, le coach de Nice, très critique envers Madi Camara, qui a refusé d'aller à Nice pour rejoindre Rennes. Et ça s'est fait au dernier moment. On s'en fout pas. Pascal Duprat.
Ah non, je m'en fous pas.
Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Olivier Giraud.
Non, on s'en fout pas.
Bah justement, on va l'écouter, Franck Haise, qui était très déçu de l'attitude de Madi Camara, le joueur brestois, qui a donc finalement rejoint Rennes après avoir donné son accord avec les Aiglons. Écoutez, Franck Haise.
On avait un accord du joueur, et on avait un accord de Brest. Mais tant que le contrat n'est pas signé, c'est ce que je disais, dans le foot, il peut toujours se passer plein de choses. Tant que le joueur n'est pas là et qu'il a passé sa visite médicale, parce que ça c'est d'autres aspects, et signé, il peut toujours se passer des choses. Je ne peux pas empêcher un club qui était intéressé par ce joueur-là, parce que c'est un très bon joueur, de tenter le coup jusqu'au bout. Si nous, on avait la possibilité de le faire, on ne se priverait pas non plus. Hein. Il faut aussi faut dire les choses comme elles sont. Après, le joueur et l'entourage du joueur qui donne un accord et puis qui revient 3 heures après ou 24 heures après, ça c'est un autre problème, c'est un problème de valeur, c'est autre chose. Ça.
Problème de valeur pour Franck Haise, Pascal. J'imagine que tu partages
alors,
ce sentiment
et des valeurs.
Eh bien, figure-toi que non.
Ah.
Figure-toi que non. Et Dieu sait si j'adore Franck Haise, parce que c'est vraiment le digne représentant de notre corporation, un entraîneur français qui est bon, qui se prend pas pour un autre, qui a du sens dans tout ce qu'il fait.
Le taclarien. Donc,
non, mais par contre, Camara, je le connais, parce que je l'ai eu à Saint-Etienne, Camara, je l'ai eu à Saint-Etienne pendant 6 mois, et je peux te dire qu'on, je peux pas laisser dire que ce garçon n'est pas exemplaire. Donc, il est exemplaire, et je voulais simplement, il l'a dit en aparté, Francaise, il dit, tant qu'un contrat n'est pas signé, il est pas signé. On est donc au 21e siècle, et la parole donnée, c'est peut-être pas la parole,
Louis-Nicolas, voilà, c'est terminé.
Donc,
hein.
Cela dit, Rennes a proposé, je crois.
Oui, bah après, ce qu'il dénonce, c'est vraiment ce revirement presque, 3 jours après, après avoir donné son accord de principe.
C'est pour ça que j'ai du mal à l'entendre, parce que ça veut dire que Rennes n'est pas venu après. Je pense que la proposition de Rennes a été supérieure à celle de Nice. Et à partir de ce moment-là, le joueur a choisi de rejoindre Rennes. Mais c'est pas une question de manque d'exemplarité. En tout cas, pas en ce qui concerne Madi Camara, tout simplement. Parce que c'est un garçon qui est en tout point remarquable dans son attitude. Donc je voulais le dire.
Ça peut être décevant quand même, Pascal. Ça peut être décevant de se dire, t'as un accord de principe. Alors oui,
si on te propose 250 000 balles au lieu de 150 000, et que ça se passe dans l'heure, tu fais quoi?
Alors je sais pas. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais choix qu'il a pris. Je dis simplement que tu peux entendre que normalement la parole donnée vaut contrat ou quasiment. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Mais les choses
ont changé.
Et je le ferai. Mais j'entends.
Si chacun d'entre nous se mettait à raconter ce qui lui est arrivé, moi, ça m'est arrivé de recevoir un joueur à l'hôtel. On attend son agent. Il avait donné son accord la veille. Il est présent au club. J'étais entraîneur de l'ETG à l'époque. Ok. Et dans la nuit, le garçon, il doit être, je sais pas, bousculé. Toujours est-il que quand je vais le chercher à l'hôtel, il me parle pas dans la voiture, et tout d'un coup il me dit, je vais pas signer parce que je vais rejoindre Saint-Etienne.
Et donc,
je l'ai pas dit. Ça m'a pas plu, mais parce qu'il avait là, pour le coup, il était là, présent,
oui,
pour signer, et nous, courtoisement, puisque son agent n'était pas là, on a dit on attend demain pour signer, on attend qu'il y ait ton agent.
Mais voilà. c'est pas parce que c'est business, Pascal, qu'on doit on doit dire que c'est bien. Moi, pour moi, non, c'est business, et c'est normal qu'il le fasse. Effectivement, s'il avait proposé plus, j'aurais certainement fait pareil. Sauf que c'est vrai que considérer que donner une parole, ça n'a aucune valeur. Moi, je trouve
ce qui est inquiétant, c'est l'attractivité du club de Nice. C'est-à-dire que la valeur ajoutée du club où t'as envie d'aller jouer, eh ben, ne pèse pas grand chose, en fait, dans la balance, et Nice est assez critiqué là-dessus, hein. Et quand tu vois la campagne de Ligue des Champions.
Idéo, c'est beaucoup désintéressé Nice aussi. Ouais,
exactement, ouais. Exactement. Ouais. Est-ce que les valeurs de Nice plaisent aux joueurs? Ça peut jouer aussi.
Est-ce que c'est pas plutôt un modèle économique que le club entend respecter? Est-ce que c'est pas, il faut pas voir les choses du bon côté.
Ouais, tu veux dire parce qu'ils n'ont pas voulu jouer les enchères.
Jusqu'à preuve du contraire, Nice, bon, elle vient de se faire étendre en tour préliminaire de Ligue des Champions. Peut-être, mais Nice va exister dans le championnat de France.
Nice a vendu pour 54 millions.
Nice se structure. Ouais, mais bon, si ton modèle économique c'est 150 000 euros par mois par joueur, tu vas pas donner 300 000 à un sous prétexte qu'il y a un autre club qui
lui propose. Mais parce que tu as entendu les rumeurs quand même que ce serait en vente, Nice. Je sais, c'est des rumeurs.
Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est qui est ce joueur qui t'a pas parlé dans la voiture, là. Moi, voilà, je veux savoir.
On n'a pas terminé l'explication. Ah bon. C'est de ma faute à vouloir être fair play, à attendre que son agent arrive le lendemain, alors que j'aurais pu très bien signer la veille. Pour autant, ce garçon, il était majeur et vacciné. Donc, nous avons voulu être fair play avec le joueur.
Oui.
Il joue plus depuis longtemps. Et chaque fois que je l'ai revu, je me suis marré de le regarder parce qu'il me regardait pas droit dans les yeux.
Mais on veut savoir qui c'était.
Magnifique. Et c'était qui?
C'était un
très bon joueur de Ligue 1 qui nous aurait fait du bien. Malheureusement,
il est parti à Saint-Etienne.
Allez,
c'est ça. On va essayer de trouver le nom.
À bientôt.
On vous dira tout ça. Non, mais tu restes avec nous dans un instant.
Il est parti.
Ça y est. Salut.
Non, c'est ce que je lui disais à chaque fois que je le rencontre. À bientôt.
Allez, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport. Notre bras de fer autour d'Armand Duplantis, dit Mundo, qui a battu son propre record de saut à la perche. 6m29 passé cette semaine à Budapest, 13 records en 5 ans. Est-ce que le Suédois banalise l'événement? On en débat dans un instant sur RMC dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.